11h24, on est de retour dans Trudeau-Landry. Je rappelle le bilan, j'ai hâte de voir, là. Est-ce qu'on pourrait assister au début d'une espèce de tendance 1869 cas? C'est beaucoup, beaucoup moins que les, 2500 quelques d'hier et particulièrement moins que le triste record de samedi qui était à plus de 3100 cas. Par contre, on dénombre 51 décès. On parle de 18 décès survenus dans les 24 dernières heures, 29 décès qui sont survenus entre le 4 et le 9 janvier et des hospitalisations qui sont quand même en forte hausse à 56 cas de plus. Faut bien se dire que si à un moment donné, on voit une tendance dans le nombre de cas à la baisse, ça va quand même prendre un bout avant que le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, lui...
Suivent ça,
parce que l'augmentation des cas des dernières semaines, ça va se traduire en hospitalisation, éventuellement en décès. Bref, bien hâte de voir à quel point on sera capable de voir cette courbe-là fléchir. On a parlé un peu plus tôt des conspirationnistes. On a aussi parlé de liberté d'expression dans l'ouverture de l'émission, notamment avec Twitter, qui a décidé de fermer carrément le compte de Donald Trump et de d'autres personnes aussi dans l'administration. Même chose pour des talents locaux ici, comme il y a Alexis Cossette-Trudel. On parle même du site Internet Parler, qui n'a plus d'hébergeur au moment où on se parle. On
va discuter. Peut-être s'exprimer.
Ils peuvent faire, c'est ça. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose où il n'y a pas un risque de les radicaliser encore davantage? On va en discuter avec un spécialiste en la matière. On lui a déjà parlé dans l'émission, David Morin, qui est professeur agrégé de l'École de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Il est également titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Monsieur Morin, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, je vous pose la question de façon large, mais directe. Est-ce que c'est une bonne chose, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire de limiter, si on veut, la capacité de s'exprimer de certaines personnes sur des médias de masse, sur Twitter, etc., ou s'il n'y a pas un risque à ça?
Oui, ça dépend, en fait, toujours de l'objectif qu'on recherche. Donc, parmi les avantages ou les impacts immédiats que ça a, j'en vois au moins deux. Le premier, c'est que on a constaté, notamment par exemple, si on prenait le groupe armé État islamique ou certains groupes d'extrême droite, que à très court terme, ça déstabilise les organisations. Donc ça, c'est vrai que ça les oblige à modifier leurs procédures et que donc ça a un réel effet dans la limitation de leur capacité. Et ça, c'est le deuxième point positif, à rejoindre plus largement monsieur et madame tout le monde, parce que quand on parle des grandes plateformes comme Facebook et Twitter, c'était notamment ce qui se passe pour le compte de Donald Trump, mais ce qui se passait par exemple quand on avait fermé les comptes de QAnon aux États-Unis à la fin de l'été, au début de l'automne, c'est que on se disait là on a un groupe qui est en train de rejoindre vraiment beaucoup beaucoup de monde, de diffuser beaucoup de désinformation et éventuellement de faire des appels à l'insurrection dans le contexte électoral qui s'en vient. Donc ça, c'est des effets positifs. Maintenant, je pense que vous l'avez en partie soulevé. Parmi les effets négatifs, c'est que ça repousse ces gens sur des plateformes qui sont plus discrètes, plus clandestines, et que ça contribue à les radicaliser. Donc, en l'occurrence, ce qui est arrivé le 6 janvier, vous parliez de la plateforme Parler, c'était omniprésent sur cette plateforme-là. Il y avait les groupes, les individus qui disaient « oui, c'est ça qu'on va faire, on va marcher sur le Capitole ». Il y avait des appels à la violence, etc. Et donc, c'est vrai que là, finalement, vous vous retrouvez, monsieur, madame, tout le monde sont plus là, sont plus susceptibles d'être atteints, mais ceux qui croient déjà à ces choses-là, qui sont déjà radicalisés, ils se craignent qu'encore plus, je vous dirais. Et puis l'autre effet contre-productif, ou en tout cas négatif, puis bon, là, je pense que vous l'avez évoqué en début d'émission, donc j'y reviendrai pas, mais c'est vrai que c'est quand même une discussion importante socialement, cette question qu'est la liberté d'expression. Est-ce que finalement, dans un contexte où nous, la loi ici encadre déjà les discours haineux, encadre déjà les appels à la violence, est-ce que ce sont au secteur privé finalement de prendre des mesures et lui-même de choisir ce qui est violent ou ce qui ne l'est pas? Mais en l'occurrence, vous savez, ce débat-là, il est sans fin, quoi. On va blâmer les médias sociaux s'ils prennent pas de mesures et puis on les blâme d'aller trop loin quand ils en prennent.
Moi, le point positif que je vois sur que Trump a été banni de Twitter, c'est que je pense, vous pourriez peut-être me corriger, M. Morin, mais je pense que ça va être plus difficile de nourrir un peu pendant les prochaines années, de nourrir ses disciples. Donc, oui, peut-être que certains seront radicalisés, mais de ne plus être sur Twitter où il rejoignait des millions et des millions de personnes quotidiennement, je pense que ça va quand même rester plus difficile pour lui de nourrir et de faire survivre ce discours-là aussi, là.
Ouais, bah ça, il va falloir voir. Donc, est-ce que le président Trump, quand il sera plus président, va décider de créer sa propre plateforme? Est-ce qu'il va créer un nouveau média? Est-ce que les médias très à droite américains vont continuer de lui donner la parole? Vous savez, c'est quand même un bon client. Il fait vendre beaucoup de papier, Donald Trump. Oui, donc, ouais. je crains quand même, si vous voulez, d'une part, que ça lui coupe pas le sifflet totalement, enfin, voire en fait pas trop. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut qu'on distingue ici les lecteurs républicains moyens, et lui effectivement je pense que moins il est exposé au discours de Donald Trump mieux c'est, parce qu'on est dans une société américaine qui est très polarisée. Le défi de l'administration Biden, c'est évidemment de réconcilier un peu cette Amérique qui est à un point où on se parle plus. Donc ça c'est une partie de l'électorat de la société américaine, mais pour ce qui est des extrémistes en tant que tels, ceux qui vont, parce que ça va arriver encore hein, commettre des actes violents, ceux qui vont commettre des attentats, tout le débat qu'on a là, vous et moi en ce moment, a finalement assez peu d'impact, parce que eux, ils vont se retrouver sur des réseaux où ils vont être capables de fomenter des actions violentes. Vous voyez, donc ça dépend vraiment en fait du public cible qu'on vise quand on prend ce genre de mesures là.
Comment est-ce que des personnes qui sont rendues très très loin là, justement dans les conspirations, dans la fabulation, comment ils peuvent revenir en arrière? Parce qu'on a l'impression, puis on a souvent parlé à l'émission de ce phénomène-là, qui fait que les gens en viennent à tellement défendre l'indéfendable que le retour en arrière semble à peu près impossible. C'est parce qu'il y a quelque chose presque de honteux d'admettre que on l'a vraiment échappé en appuyant, par exemple, des théories un peu loufoques. Mais comment ce retour-là en arrière peut se faire? Est-ce que des fois c'est un événement particulier? Est-ce que c'est avec le temps? Comment les gens peuvent se sortir de ça?
Ouais, ça c'est la question. Je vous dirais qu'il y a des failles qui peuvent se faire dans la pensée conspirationniste. La première, c'est qu'évidemment, par exemple, un contexte comme ce qu'on a vu le 6 janvier, donc le fait que ça aille trop loin, il y a des gens qui peuvent se dire « Wow, ça peut servir aussi, si vous voulez, d'électrochoc ». Le deuxième, la défaite de Donald Trump, alors comme vous disiez tout à l'heure, peut aussi, et le fait qu'il ait moins accès à monsieur et madame tout le monde, créer une fenêtre d'opportunité chez des gens qui sont fatigués de l'avoir soutenu, qui se sont battus pour lui, qui ont dans une certaine mesure adhéré, si vous voulez, à toute la question des élections qui auraient été volées, etc., et qui là se retrouvent dans un état où psychologiquement ils n'en peuvent plus de se battre, et que donc là vous avez effectivement une fenêtre d'opportunité, notamment pour leurs proches, etc., pour dire écoute, laisse tomber. Donc là vous avez, dans ces moments-là, il y a toujours des périodes où c'est plus propice. Et puis après, vous avez des gens aussi qui sont revenus, si vous voulez, un peu à une réflexion plus complexe, parce que leur entourage ont continué de leur envoyer toujours des éléments qui étaient un peu plus rationnels, etc. Mais souvent, le chemin en sens inverse, dans une certaine mesure, où le fait d'arrêter d'adhérer à la pensée conspirationniste, faut que ça vienne de l'individu en tant que tel. Ouais. C'est un peu comme l'alcoolisme. Vous pouvez pas empêcher quelqu'un d'arrêter de boire s'il n'est pas convaincu qu'il faut qu'il arrête de boire. Donc, il faut que ces personnes-là, à un moment donné, elles-mêmes, finalement, en arrivent à la conclusion par elles-mêmes que peut-être qu'ils sont allés trop loin. Et c'est souvent dur pour les proches, parce que ça peut prendre du temps. Puis là, on est quand même allé très loin.
Mais collectivement, on peut quand même se poser la question, comment contrer la désinformation? Parce que je pense qu'il y a des médias qui font un bon travail. Si on prend par exemple le Washington Post qui a sorti les extraits des appels de Trump qui mettaient de la pression sur le responsable des élections en Géorgie, on voyait bien que ça n'avait pas de bon sens. Mais il y a des gens qui rejettent complètement maintenant ces médias-là comme CNN, comme le Washington Post. Même les gens très radicaux vont rejeter Fox News. C'est-à-dire, comment on fait pour contrer ça collectivement, la désinformation, dans les prochaines années? Là?
En fait, il faut toujours avoir des interventions qui soient ciblées. C'est-à-dire que ça dépend de vos groupes de population que vous cherchez à aller rejoindre. Donc c'est sûr que, par exemple, faire du debunking, là, comme on voit les grands médias que vous citiez, ou même ici, au Canada, on en a qu'en fond, donc rétablir les faits, etc., ça c'est bon pour les gens qui n'ont pas complètement basculé. Maintenant, là, les gens à qui que vous mentionnez, qui sont des gens qui se sont vraiment radicalisés, qui ont adhéré à une pensée complotiste, ceux-là, ils sont beaucoup plus difficiles à rejoindre. Et là, je vous dirais qu'il faut aussi partir du principe qu'il y en a peut-être certains qui malheureusement sont perdus, et il faut leur laisser à eux l'occasion ou non de revenir. Je pense que là où on a un levier, la possibilité, si vous voulez, de faire en sorte que ça ne devienne pas généralisé, et puis c'est ça, notre problématique, c'est comment est-ce qu'au finalement on met une digue contre une avalanche de désinformation, une vague de désinformation, il faut repartir en prévention. Donc, il faut que dans nos écoles, on fasse de l'éducation à la science, qu'on fasse de l'éducation aux réseaux sociaux, donc que on explique aux gens ce qui peut se dire et pas se dire sur Internet. Et d'ailleurs, on parle souvent des jeunes, mais pas juste des jeunes. Nous, on a fait des interventions en milieu de travail. Je donnerai pas trop de détails, mais dans des milieux, par exemple, comme en construction, etc., où finalement, beaucoup de gens et de travailleurs constataient que la situation, le discours sur les réseaux sociaux dégénérait et que ça s'accompagnait même en milieu de travail, je vous dis, de discours un peu haineux ou de tension, etc. Donc, c'est revenir expliquer aux gens, finalement, les phénomènes dans lesquels ils sont aux prises et leur expliquer souvent, ou leur dire, ou leur rappeler plutôt, qu'on est face à des phénomènes complexes. Parce que les gens, ils ont besoin... Ils ont peur, ils sont anxieux et ils ont besoin de réponses à ces questionnements-là. Et souvent, là où on s'infiltrait les théories du complot, c'est qu'on leur donne une réponse toute faite, simple. Et c'est souvent plus rassurant d'avoir une réponse, même si elle est mauvaise, que de se faire dire « Écoute, le problème est tellement complexe qu'on n'en est même pas sûr de là où on s'en va avec les mesures sanitaires. » Donc c'est ramener, si vous voulez, cette complexité-là.
Est-ce qu'on est devant une tempête parfaite, M. Morin, avec la situation qui est unique, la pandémie mondiale, bon, en tout cas qui n'a pas été vue depuis plusieurs décennies, et bon, l'avènement des médias sociaux, la multiplication des plateformes, est-ce que ça crée une tempête parfaite ou dans le fond, un phénomène comme celui qu'on vit là, on a déjà, par exemple, vécu ça dans l'histoire, mais juste pas de la même façon parce que bon, il n'y avait pas Internet, etc.?
Ça, c'est une bonne question. Il faut la regarder sur le temps long. Je vous dirais que oui, on est probablement dans une période difficile. Alors, une tempête parfaite, d'ailleurs, qui n'a pas commencé avec Donald Trump. Je pense que elle a commencé un peu avant, on l'a vu aux États-Unis à l'époque du Tea Party. La tempête parfaite, c'est la crise économique de 2008. C'est ce qu'on a appelé la crise migratoire et puis nos sociétés qui sont en train d'évoluer sur le plan démographique. C'est la lutte au terrorisme qui a désigné évidemment un ennemi parfait. Qui étaient les islamistes, mais chez certains, dans certaines sociétés, on a compris que c'était l'islam, on a confondu un peu les deux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui, évidemment, sont non pas des déclencheurs, mais des accélérateurs, si vous voulez. Et je pense que la rencontre entre ce contexte-là, sociopolitique, et un homme comme Donald Trump, qui finalement est pas tellement un démocrate, a plutôt, en fait, instrumentalisé les failles dans la société américaine pour faire passer ces discours radicaux et puis éventuellement appeler à la violence. Puis vous savez, l'histoire, c'est toujours la rencontre entre un contexte et les individus, font que je pense que oui, on doit collectivement être très préoccupé parce que finalement, quand on regarde bien ce qui a quand même séparé Donald Trump de quelque chose qui serait beaucoup plus grave, c'est l'armée. C'est la posture que l'armée américaine a prise en disant « nous restons fidèles à la Constitution américaine ». Quoi qu'il advienne. Et vous faisiez appel à l'histoire, souvent dans les cas où malheureusement ça a basculé dans des éléments encore plus tragiques, c'était qu'est-ce qu'allait faire l'armée dans un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui ne sont des pays pas démocratiques. C'est cette armée-là qui finalement est la variable qui fait basculer ou non. Donc je pense qu'on est dans une période préoccupante où on sent, même ici au Canada, alors même si le Canada est un peu plus immunisé, je pense qu'on aurait trois tort de se croire à l'abri, et on le voit, l'extrémisme monte ici aussi, les discours anti-gouvernementaux montent ici aussi. On aurait tort de se croire à l'abri, il ne faut pas qu'on prenne la démocratie pour acquis. À mon avis, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, c'est que si vous et moi, on s'était parlé il y a 3 ans, je pense qu'on aurait été incapable de prédire qu'on serait rendu si loin dans l'érosion des fondements démocratiques. Donc je vous dirais que oui, on est dans une tempête, mais on a du pouvoir sur les choses individuellement et collectivement. Je pense juste qu'il faut qu'on se remonte les manches puis qu'on arrête de dire « bof, c'est pas si grave ». Et du reste, il faut écouter aussi la population américaine qui a voté pour Donald Trump. Pas la juger, pas la traiter d'illuminée. Va falloir que l'administration de Biden trouve un moyen de réconcilier, en tout cas pour ce qui est possible de faire, l'Amérique avec elle-même. Parce que sinon, effectivement, à mon avis, on est au début de quelque chose et pas du tout à la fin.
Très intéressant. Merci beaucoup, professeur Morin.
Ben, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi, David Morin, donc de l'Université Sherbrooke, également titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Il connaît ça, il connaît pas mal ça.
Ouais.
Ses propos me rassurent un peu dans ce qu'on disait tantôt à l'effet que faut pas lâcher le morceau. Il y en a qui ont échappé, mais il faut aussi s'adresser à ceux qui peuvent être tentés, séduits par ça.
C'est ça.
Il faut parler à ces gens-là.
Il faut essayer de comprendre pourquoi ou sont sombres dans ces théories-là. Mais moi, j'ai pas aimé, c'est pas à cause de lui, mais j'ai pas aimé la fin de l'entrevue. Moi, mercredi passé, c'est mercredi ce qui s'est passé au Capitole, hein, c'est ça. Hein? je me suis dit, OK, ça, c'est le point culminant de quelque chose, c'est la fin de quelque chose.
Ouais, il dit que c'est peut-être
lui,
le début.
Il dit que c'est peut-être le début, parce que t'as mis le doigt sur un point important, Joe, c'est que moi, je regardais ça mercredi après-midi, quand je regardais les Trumpistes, entrer dans le Capitole, puis aller s'asseoir dans le bureau de Pelosi et compagnie, puis bon, les coups de feu, puis la vitre cassée, puis les fusils. Je me disais, OK, on est dans l'œil de la tempête parfaite. Tu sais, t'as parlé de tempête parfaite tantôt. De quoi je parle, tempête parfaite? C'est que t'as Trump, OK, qui était déjà un peu débilitant dans ses propos. Viens ajouter à ça, bon, toutes les questions reliées à la pandémie, ceux qui essaient de faire croire aux gens qu'il y a des complots avec l'OMS, les compagnies de pharmaceutiques, les gouvernements. Puis là, t'as Trump qui était déjà très toxique et débilitant. Tout ça marié ensemble, c'est la tempête parfaite de laquelle tu parlais tantôt. Puis moi, je me disais mercredi, OK, ça, c'est le point culminant. Ils sont en train de frapper le mur, puis on va revenir à du plus raisonnable et à du discours moins extrême. Parce que tu peux pas regarder ça en disant, hey, wow, c'est hot, hein, ce qui est en train de se passer, puis hein, on est en train d'avoir le dessus sur les élites, puis la seule réaction que tu peux avoir en voyant ce qui s'est passé mercredi, c'est, OK, parfait, c'est allé trop loin, tout ça, on revire de bord.
Ouais.
Mais ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est que c'est peut-être pas ça. Là. On est peut-être dans le début de quelque chose plutôt que dans la fin.
C'est, je vais me transformer en météorologue à Saint-Saëns. Okay. C'est comme si, dans le fond, tu regardais différents systèmes météo, là. Puis là, à chacun de ces endroits-là, tu dis, oh, bon, hey, c'est pas beau ce qui se passe là. Mais dans le fond, c'est juste le début parce que ces systèmes-là vont entrer en contact. Et là, ta tempête, tu vas l'avoir. Donc, c'est vrai que c'est inquiétant, là. Le Capitole, c'était-tu la tempête parfaite ou c'était un des éléments sur le radar météo, là?
Moi, je vois ça comme la fin.
En place.
Parce qu'avec mes lunettes roses, je me dis, une fois que la pandémie va être passée, on va tasser un peu les théories complotistes. Une fois que Trump va être débarqué de la Maison-Blanche, avec mes lunettes roses, je me dis qu'on s'en va vers du meilleur. Ne serait-ce que d'être passé à travers la pandémie, puis de reprendre une vie normale, puis de recommencer à vivre, on va être moins pogné à avoir des espèces de réflexions existentielles qui mènent des fausses théories du complot. C'est pour ça que j'ose espérer que ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, c'est la fin d'un mouvement, mais il n'y a rien de moins sûr que ça non plus. Là.
On vient d'ailleurs de déposer la deuxième tentative de destitution de Trump à l'instant, même il y a quelques minutes.
Exact, ce qui est la première étape vers une nouvelle procédure de destitution. Dans le fond, les démocrates qui accusent Donald Trump d'un appel à l'insurrection dans son rôle suite aux émeutes, à l'émeute du Capitole. On va voir comment ça va se développer au cours des prochaines heures. Juste avant d'aller à la pause, je vais le redire une énième fois. Parce que j'ai vu des commentaires dans les dernières minutes des gens qui nous écrivent au 25-226 puis qui vont dire c'est ça, si on questionne les mesures du gouvernement, si on questionne les mesures sanitaires, le couvre-feu, les décisions, pour vous, on est tous des débiles, puis non, puis je vous jugerai même pas sévèrement parce que je le dis souvent, puis je vais le répéter, il faut faire attention à comment on parle des gens qui méritent d'être dénoncés, puis aussi à pas mettre tout le monde dans le même panier.
Non, bien sûr.
Tu sais, quand moi je parle de gens qui vont parler d'extrémisme sanitaire, qui vont minimiser la portée de la pandémie, dire qu'il y a juste une vingtaine de personnes malades, dire que c'est pas vrai que le système est mal en point, le système de santé, dire que les Legault de ce monde, les Arruda, devraient être traités devant la justice criminelle, la 5G. Ça, là, ces gens-là qu'on expose, oui, je trouve qu'ils ont un discours débilitant. Et ce que je déplore, c'est que justement, des gens qui font juste se poser des questions normales, comme je pense qu'on le fait régulièrement.
Bon, on l'a fait en début d'émission.
Pourquoi les patinoires sur si et ça. Moi, j'ai dénoncé la transparence du gouvernement, entre autres sur les équipements dans les hôpitaux dans la première vague. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une enquête publique. Donc, on n'est pas en train de dire que si vous vous posez des questions, si vous êtes chez vous à vous demander le couvre-feu, c'était-tu vraiment nécessaire? Les sirènes, c'était-tu nécessaire? Le confinement prolongé, les commerces, ça, c'est loin d'être débilitant. Nous autres, ce qu'on déplore, c'est que les gens qui vont dans l'extrême de ce discours-là, ceux qui, eux, tiennent des propos débilitants, ils vous tendent la main.
Exact.
Ils vous tendent la main. Et ma crainte, c'est que vous saisissiez cette main tendue-là. Et de là, l'importance de notre rôle, je le répète, là, que de temps à autre, faut faire ce qu'on fait là. C'est-à-dire de dire aux gens qui font juste se poser des questions que c'est correct de se poser des questions.
Exemple, c'est ça, exemple de propos débilitants, c'est de dire que Legault est un dictateur. Ça, à mon avis, c'est ça un propos débilitant, là. C'est de faire croire aux gens que Legault est un dictateur, puis ça va rester comme ça pendant des années, puis vous allez voir, puis il n'y aura plus jamais la vie d'avant, puis ça, c'est un exemple de propos débilitants, à mon avis, quand on parle de dictature au Québec actuellement.
En passant, ils vous tendent la main, mais c'est pour que vous mettiez de l'argent dedans, généralement.
Aussi.
Oui, puis mais ils ont besoin d'attention aussi.
De l'amour.
Oui, il y a l'argent.
Aussi.
Mais ces gens-là ont besoin de beaucoup d'attention aussi.
De l'amour et de l'argent. Puis ils se foutent bien de votre bien-être. Derrière, des dessous très, très, très vertueux, là, ils s'en foutent bien comme il faut. 11h44, on va faire une pause, on revient dans Trudeau-Land.